Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi, là, qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, là, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis Des Sang-Froid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous.
Je suis NJ, et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'Ordre de la Ronde Hache, et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel.
Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loups dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froide, solide et difficile à manier.
Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Basquerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceurs et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide.
Je m'appelle Danny, alias Radburger, et j'incarne Cal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoène.
Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetières.
Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Beryn Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti qu'il ne pourrait se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres.
Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Précédemment, dans les Chroniques de Babel, voilà 4 ans que le Dominion a tenté d'envahir la côte de Mézo, mais ce royaume de sable aux arômes d'épices emporte encore les cicatrices. Une rumeur circule à la cour de la capitale mézoène. Non seulement l'assassin du précédent souverain serait vivant, mais le présent roi, Azim le Hardi, l'aurait vendu au Ferné pour qu'il dispute bientôt un duel judiciaire. Le frère commandant Solomon croupirait dans les ruines d'un ancien colisée. L'ex-commandant Beryn Karaman, l'homme qui a combattu le héros du Dominion, est le seul visiteur du prisonnier. Au fil du temps, ils sont devenus amis. Craignant pour son fils Kenan, qui s'est ouvert aux arcanes de la ténèbre, la magie, Beryn a demandé à Solomon de guider son fils, lui qui sera présent et témoin pour les Mézoïens lors du duel judiciaire sur les îles de fer. Notre caméra se porte maintenant sur le capitaine Cal Shadim, le meilleur ami de Beryn Karaman et le parrain du jeune Kenan. Sa présence a été exigée auprès du roi Azim.
Chapitre 1. Lorsqu'un roi vous demande l'impossible.
On va se retrouver au palais. Il y a longtemps que tu n'as pas rencontré un roi. Le fait que Beryn Karaman était chargé de la protection du roi, tu as souvent vu le défunt roi Abid le Bon, sans jamais vraiment y parler. Des fois, il t'adressait la parole, mais seulement pour s'enquérir de la température ou d'un choix d'une monture. Donc, ça fait au moins 4 ans que...
Que je parle au palais, ouais.
C'est en plein ça. Là, c'est pas le palais du roi, c'est le palais du vizir, le bourgmestre de la ville. Mais ça va être la première fois que tu vas voir le roi d'aussi près. Les lourdes portes ornementées de la salle d'audience du vizir s'ouvrent devant toi dans un silence troublant. Immédiatement, dans la somptueuse salle, tu remarques les guerriers immortels, immobiles de chaque côté, avec leurs armures sombres en acier et ce masque qui les rend anonymes. Quatre à gauche, quatre à droite. On va montrer l'image. Mais à droite se tient un cinquième homme. Des yeux couleur or et des tatouages de cette même dorure. Pour toi, nul doute, il s'agit du conseiller enténébreur du roi, Moon. La ténèbre, c'est la magie dans Babel. La réputation de Moon le précède. Il a servi sous le règne de trois rois. Il s'en trouve certain pour dire que les rois sont de passage, mais que Moon sera toujours là, immuable comme la lune dans le ciel noir. Bien sûr, dire ce genre de phrase à voix haute condamnerait la personne à perdre la tête. Mais il est vrai que les ennemis politiques de Moon ont la fâcheuse tendance à mourir dans leur sommeil, ou se suicident, ou deviennent apathiques au point qu'il faille les faire manger à la cuillère. Au fond, en haut des marches de l'estrade, qui mène à un confortable siège qui pourrait accueillir le cul d'une personne de 600 kilos, le roi Azim le Hardi se lève. Autre image. Mince et athlétique, le souverain, d'un revers de main, congédie les deux hommes qui étaient prosternés. Il vient à ta rencontre, Cal, ce qui est plutôt inusité. Il descend les marches. Que fais-tu?
Cal n'a pas l'étiquette. Il continue sa marche vers lui, comprenant pas trop le cérémonial et tout ça. Son apparence laisse transparaître ce manque d'étiquette de cours. Il est toujours habillé avec les vêtements avec lesquels il a entraîné ses hommes, c'est-à-dire courir jusqu'en haut de la montagne et tout ça. Il est poussiéreux. On remarque que son turban et son foulard sont extrêmement poussiéreux, son visage aussi. Mais lorsque Cal va arriver avec peut-être à 5 mètres du souverain, il y a un déclic qui se fait dans sa tête et on le voit juste mettre un bras devant lui et se pencher en signe de respect et souffler d'un air peu assuré. Votre Majesté.
Capitaine Cal Shaddim, marchons un peu, vous voulez bien? L'air frais du soir me ferait grand bien.
Vous désire, Votre Majesté.
Il se dirige vers les grandes portes que tu viens de franchir pour sortir de la salle d'audience. Après quelques mètres, vous vous retrouvez dans un magnifique jardin sur terrasse, avec une vue imprenable sur Nippur et le soleil qui disparaît dans un ciel orangé et rose. Bien sûr, les 8 guerriers immortels de sa garde personnelle vous suivent. Cette garde, les immortels, existe depuis 4 ans, depuis que ton ex-commandant a failli à la tâche de protéger le roi. Tu peux profiter de cette vie magnifique, cette vue magnifique, toi qui vis dans les bas quartiers de la ville de Nippur. Tu as rarement le loisir d'embrasser un tel paysage. Savez-vous qui est le père du frère commandant Solomon, le Kral Katili, capitaine?
Mais, excuse, Votre Majesté, mais je dois vous avouer que je n'ai pas ce genre de connaissances.
Effectivement, et je m'en navre. À l'école militaire, on vous apprend les hauts faits d'armes de nos héros maisons. Mais nous aurions intérêt à étudier aussi les faits d'armes de nos voisins et surtout de nos ennemis. Tanis Santagar était un ancien connétable du Dominion, le chef suprême de leur armée. Il y a une vingtaine d'années, les Fernés attaquaient sans relâche les villages et les villes sur les côtes du Dominion, ainsi que leurs rares navires marchands, le peu qu'ils ont. Ne possédant pas une flotte militaire importante, le Dominion était incapable de freiner les pirates. Savez-vous ce qu'a fait Tanis Santagar, le père du frère Solomon? Bien sûr que non. Je m'excuse.
Votre Majesté.
Pardonnez-moi. Il a pris une dizaine de navires seulement. Il les a remplis à ras-bord d'hommes et de feux grégeois. Ils ont navigué tout droit vers les îles de fer. Devant la capitale des Fernés, il n'a pas pilonné leurs murailles, ni tenté d'entrer. Bien au contraire, il a fait sceller les portes et catapulté tout le feu grégeois qu'il avait en moins de 2 heures, brûlant tout, hommes, femmes et enfants. Il n'y avait pratiquement aucun guerrier dans la capitale ce jour-là. Une cicatrice indélébile sur le cœur et dans l'histoire des Fernés. Dans 1000 ans, soyez assurés qu'ils pleureront encore à l'écoute des chants qui relatent ce sombre drame. Humainement parlant, je ne peux que condamner un tel acte. Militairement parlant, cependant, la stratégie est impeccable. Plus jamais les Fernés ont attaqué les côtes du Dominion ou leurs navires. Bien entendu, ce sont les Espagnols, les Anubiens et nous qui en avons payé le prix. Les Fernés se rabattant sur nos navires et nos côtes. Surtout nous, qui avons la plus grande flotte de navires marchands au monde. Les Fernés ont toujours voulu se venger, en amenant Tanis Santagar dans un duel judiciaire. Malheureusement pour eux, il y a quelques semaines, l'ancien connétable du Dominion est mort. Lorsque j'ai négocié la capture du frère Solomon il y a 4 ans, mes conseillers voulaient que je l'exécute au milieu de Sumeria, notre capitale, pour en faire un symbole de notre victoire sur le Dominion. Cal? Oui, vas-y.
Ça aurait été une erreur, Sir. Pardonnez-moi de parler sans y être invité.
Non, nous avons une conversation, capitaine. Fais-moi un jet de jauger ton environnement sous perception. Combien as-tu de niveaux d'action?
Eh bien... J'ai 6.
6, c'est très bien. Tu vas me faire ton jet à 70. Kal Shaddim.
Bien, j'ai 1.
C'est une réussite critique. Écoute, tu écoutes le roi. Je crois que Kal Shaddim est quelqu'un qui s'intéresse aux faits d'armes. Et l'histoire de ce Tanis Santagar, le père du tueur de roi, à ton oreille. Mais tu es un militaire. Tu envoies tes œillades un peu partout, tu as des œillades un peu partout à regarder cette garde, ces immortels, et surtout l'enténébreur. Et tu as remarqué que lorsque le roi a parlé de conseillers qui voulaient absolument tuer le tueur de roi, le conseiller enténébreur a tressailli un peu. Et tu peux faire 2 plus 2 que c'était sans doute quelqu'un qui était favorable à la mort du frère Solomon. Je n'en fis rien, car je n'y trouvais aucun intérêt pour notre royaume. Aujourd'hui, ma décision du passé va assurer un avenir plus qu'heureux et riche pour notre peuple, capitaine. Tanis Santagar mort, j'ai informé les Fernés que nous avions son fils. Ils le veulent coûte que coûte. J'ai négocié 5 ans de paix avec les Fernés, où aucun de nos navires et villages côtiers ne seront attaqués par eux. Cela représente des dunes et des dunes d'or pour nous. Le comprenez-vous?
Oui, Votre Majesté. Mais si je peux ajouter cet homme, cet infidèle qui dirigeait la ville, aurait pu nous tuer, moi et le capitaine Beryl, lorsque nous sommes allés à lui pour la vengeance de l'ancien roi. Et cet homme nous a s'est montré charitable envers nous. Alors je crois que ce genre de gestes, les gestes d'honneur, nous finissent par nous revenir, Votre Majesté.
Le frère Solomon était un homme mort, vous savez. Soit il était exécuté dans la capitale, soit nous nous en servions pour le bonheur et pour l'avenir de notre royaume. C'est ce que je fais.
Maintenant, il aura la chance de se battre pour son honneur et pour sa vie.
4 ans de captivité dans une minuscule cellule, sans entraînement, sans avoir touché à une arme, ne le désavantage grandement devant le champion des Fernets. N'êtes-vous pas d'accord?
Si, Votre Majesté. Mais je crois que cet homme est à l'âme d'un combattant et correctement entraîné. Il a tout le moins des chances de bien se défendre si on lui laisse la chance.
Je ne veux pas parier sur l'un ou sur l'autre. Le traité est signé. Et j'ai fait mandater le jeune Kenan Karaman, le fils de votre ancien commandant, pour être le scribe témoin de ce duel judiciaire. Le jeune scribe partira pour les îles de fer pour témoigner du duel. Et je veux que vous l'accompagniez. Vous êtes son parrain, n'est-ce pas?
Vous êtes bien informé, Votre Majesté.
Il salue ta remarque d'un petit hochement de tête. Ceci était mon premier ordre. Il y en a un deuxième. À l'évocation de ce deuxième ordre à venir, tu as fait une réussite critique. Donc, tu vois qu'à la mention de ce deuxième ordre, les immortels mettent la main à la poignée de leur épée. On vous dit très proche de Beryn Karaman. Si il a fait de vous le parrain de son fils unique, la chose est sûrement vraie, non?
C'est vrai, Votre Majesté.
Croyez-vous que j'ai bien fait de lui faire couper le bras d'arme il y a 4 ans?
C'est... Outre... Je ne suis pas ni juge, ni juriste. Mais je crois que Beryn se serait enlevé beaucoup plus pour sauver son honneur.
Vous savez, je n'avais rien contre lui, mais je devais agir pour tous les autres commandants sous mes ordres. Beryn avait déshonoré sa fonction et déshonoré le nom des Karaman. Une lignée de héros célèbres depuis des générations.
Soyez certain que cette décision me peine grandement, mais... Fort heureusement, je ne suis pas celui qui avait à décider de la sanction de Beryn. Il reste cependant mon ami et mon frère. Mais Votre Majesté, si votre question est-ce que j'approuve le fait de lui couper le bras, eh bien, ma réponse est non, si l'on parle de mon ami, mais oui, si on parle de la personne qui a failli à sa tâche. Alors, voilà ma réponse, Votre Majesté.
Tu vois qu'il y a un léger sourire. Votre franchise vous honore, capitaine. Les autres membres du clan Karaman, surtout ceux de la capitale, veulent le voir mort. Il reste une honte pour eux, une tâche familiale qu'ils doivent effacer. Beryn Karaman ne peut échapper à son destin. Sa famille est puissante, et elle arrivera inévitablement à ses fins. Voici mon deuxième ordre, capitaine. Je vous ordonne de faire en sorte que l'ex-commandant Beryn Karaman ne meure pas de la main d'un boucher ou d'un exécutant sans visage. Je veux que sa mort vienne d'un frère d'armes et non d'un vulgaire assassin qui le poignardera dans le dos au fond d'une ruelle. Je vous ordonne de le tuer. Dès ce soir.
Et là, on voit les yeux de Cal se fermer doucement.
Et avec le jet de perception que tu as eu, tu peux peut-être même entendre un peu le doux sifflement
des épées que l'on sort à peine du fourreau.
Au contraire de sa garde, Cal, lui, au lieu de que sa main s'agrippe à une épée ou quoi que ce soit, on voit juste les épaules de Cal s'effondrer, se relâcher et avec un soupir que le roi doit très clairement apercevoir.
Mon ordre est donné. Les deux. Accompagnez votre neveu sur l'île de Fer pour le duel judiciaire. Mais tout d'abord, je vous laisse exécuter mon deuxième ordre.
Majesté, je ne voudrais pas outrepasser mes droits, mais que je peux poser une question.
Tu vois Moon faire un pas comme pour intervenir. De la main, le roi arrête son mouvement. Moon se retire et reprend sa place auprès des immortels. Vous avez le droit à une question. J'ai encore une longue journée devant moi. Les fonctions d'un roi sont préoccupantes.
Tout à fait, Votre Majesté. Je sais que si dans la mort je peux lui assurer une chose, à Berin, il partira l'âme et la conscience tranquille. Est-ce que je peux lui assurer un avenir pour son fils?
La cour royale aidera le jeune Kenan. Et si vous pouvez l'aider aussi.
Bien sûr. C'est très gracieux, Votre Majesté. Je fais une révérence un petit peu plus élaborée et je me retire.
Il salue ta révérence d'un petit hochement de tête et tu le vois partir avec 6 de ses immortels et 2 en silence et de loin te raccompagne jusqu'à la sortie du palais.
On voit que Cal, quand il sort du palais, il fait juste s'adosser à une colonne. Il ferme les yeux, il se met la main au visage. Et on sait que Cal, c'est pas une personne qui pleurerait dans ce genre de situation-là. Mais je pense qu'on, ce moment-là, son soupir, sa position laisse montrer sa souffrance présentement.
Et comme pour épargner à la vue des spectateurs cette vision de ce grand guerrier qui est présentement défait, la caméra n'est pas directement sur Cal Shaddim, mais plutôt sur son ombre. Et on voit à cette ombre prostrée toute la peine et la souffrance que le roi Azim le Hardi lui a infligé en lui demandant cet ordre de tuer son meilleur ami.
Chapitre 2. La fougue de la jeunesse et le démon blond.
La caméra parcourt lentement les rues de Nippur. Pas les plus belles, pas les plus riches. Les rues qui encerclent le port, les quartiers pauvres où ouvriers et bandits partagent le même air salin de la mer. De jour, les risques d'y être dépouillé de sa bourse sont très élevés. De soir, on ne parle même plus de risques, on parle de certitude. Seuls les gens avertis, sous bonne escorte ou en mesure de se défendre, s'y aventurent. La façon la plus certaine d'éviter les problèmes dans ce quartier, c'est se déplacer en groupe. Comme sortir des lupanards à la fermeture tous en même temps. Bon, allez dire ça aux jeunes gens, eux qui se croient souvent invulnérables, hein? Kenan, tu es dans ces rues, accompagné d'un seul garçon dans les mêmes âges que toi, environ 16 ans lui aussi. Qui est-ce?
C'est mon meilleur ami depuis toujours, Mahmoud.
Marc, il y a un R.
Ah ben c'est M-A-H-M-O-U-D.
Mahmoud.
Je l'ai prononcé à l'arabe.
Ah, ok.
Mais Mahmoud. On est dans le thème ou on n'est pas dans le thème?
Ah, bah écoute, reste avec le thème. Mahmoud.
Mahmoud. Désolé pour tous ceux qui d'ailleurs parlent arabe.
Ah, bah,
je l'ai mal prononcé, mais.
Écoute, Mahmoud, Mahmoud, c'est ton meilleur ami.
Mahmoud est mon meilleur ami, ouais.
Et qu'est-ce que vous faites dans les rues du port? J'ai eu ouï dire que tu allais visiter une maison aux mille plaisirs.
Ouais, je sais pas trop. C'est un truc que Mahmoud m'a parlé. Et c'est vrai que j'étais pas forcément super chaud à l'idée, mais bon, je l'ai suivi comme d'habitude. Quand il a des idées en tête, Mahmoud, il sait se faire convaincant. Assez convaincant pour le suivre.
Habituellement, c'est qui le leader entre vous deux?
Ça dépend, suivant les idées de chacun. On se ligne mutuellement sur celui qui arrivera à penser à la plus grosse des conneries. Donc là, cette fois-ci, c'était plutôt lui, c'était son idée.
Très bien. Vous finissez par arriver à destination. Vous arrivez devant l'escalier de bois de la maison des Sept Soupirs. La réputation de cette maison dépasse même les frontières mésoennes. Et on retrouve même des maisons des Sept Soupirs dans d'autres royaumes. Finalement, ils sont franchisés. Hein? Et bien qu'elle soit située dans un quartier pauvre, les mieux nantis y viennent. Le choix du lieu était plus motivé par l'éloignement de la milice. Disons que les autorités armées de la ville ne traînent pas trop dans le secteur dans lequel vous êtes. Il y a une douzaine de marches qui montent pour atteindre un palier et la double porte. Est-ce que tu as déjà été à la maison des Sept Soupirs?
Effectivement, on a fait beaucoup de choses ensemble, mais j'avoue que j'ai pas forcément beaucoup de mémoire, mais je crois me rappeler de cette adresse. Il y a peut-être quelques temps de ça, peut-être que...
Allez,
il y a peut-être quelques mois, on était venu ici, je pense. Je reconnais les marches un peu souilleuses qui arrivent jusqu'à l'entrée.
Les visites de fin de soirée, où on est un peu amêché, où notre mémoire est moins performante, c'est ça?
Exactement. Peut-être que si je faisais le tour et que j'allais dans la ruelle, je m'en souviendrais un peu plus de la ruelle.
T'as passé plus de temps dans la ruelle que dans la maison des Sept Soupirs.
Exactement. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que ça me dit quelque chose, ces marches-là.
Très bien. Alors que tu ouvres les portes doubles, tu te retrouves immédiatement face à face à Brahim.
Ah oui, je crois que je m'en rappelle de celui-là.
Oh, lui, tu dois t'en souvenir. Écoute, Brahim, c'est un peu un mac. Il a quelques femmes qui travaillent pour lui et on le sait, un des vices, un des petits défauts de notre jeune homme Kenan, c'est les femmes. Et immédiatement à ta vue, tu vois que le sourire qu'il affichait se désintègre.
Ouais, c'est un peu le même sourire que je lui fais en même temps. Parce que je suis plutôt d'un naturel à être joyeux. Donc, quand je le vois, mon visage se ride un petit peu.
Kenan, Mahmoud. Et là, tu vois qu'il serre les dents.
Là, j'essaye de jouer les apparences. Et puis, je reprends mon sourire et... Hey, Brahim! Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Puis je commence à m'avancer un petit peu pour lui faire comme une petite tape sur l'épaule.
Aussitôt que tu as aussitôt que t'amorces le geste de vouloir lui tapoter un peu l'épaule, tu vois qu'il repousse ton bras. Séduire l'une de mes filles n'est jamais une bonne idée, les garçons, et encore moins la convaincre d'arrêter de travailler pour moi.
De quoi? Mais qu'est-ce que tu parles?
Je
de tes filles.
Je parle de Shadia. Elle était l'une de mes meilleures vaches à lait, l'une des plus payantes pour moi.
Ah, Shadia.
Qui aurait séduit la dite Shadia? Est-ce que c'est Mahmoud ou ce serait toi?
Alors, il y a moyen que ça soit moi, oui. Le prénom me revient un petit peu comme ça, vaguement. Quelque chose en chat, c'est pas forcément courant.
Encore un fond de ruelle.
Peut-être que la ruelle était aussi pour quelque chose, effectivement. Elle était calme ce soir-là, je crois, donc c'était bien agréable. Mais oui, je pense que c'est moi. Mahmoud est plutôt du genre à me traîner un peu à ce genre de truc, mais pas forcément le plus chaud pour,
écoute,
pour rentrer dans l'action.
Je sais pas ce que t'as dit à cette jeune femme. Sans doute que tes talents de séducteur, tu as parlé de voyage et tout, mais elle a claqué la porte à Brahim. Jamais vous ne pourrez me dédommager suffisamment. Mais attendez, j'ai une idée. Quelques hommes riches ont un penchant pour la torture et qui seraient prêts à payer un bon prix pour baiser deux jeunes hommes comme vous deux.
Là, je me recule à ce moment-là. J'ai des yeux énormes devant lui et puis je lève les bras. Wow, mais qu'est-ce qui t'arrive, Brahim, là? Moi, je la connais pas, ta Shadia. Je vais tenter, de mentir.
Ok, on va aller voir un peu qu'est-ce que ça dit, l'affiche de notre Kenan à mentir. Tu as combien de niveaux d'action?
J'ai 600 niveaux d'action.
Oh, mais c'est quand même bien. Mais tu as devant toi un arnaqueur. Donc, lui aussi, il est équipé. Donc, il va... ton jet se fait contre sa compétence. Ton jet va se faire à 50%.
Je suis déçu. Je pensais que Kenan y accepterait. Lui qui est de nature curieuse et qui veut s'ouvrir à d'autres cultures.
Je suis très bicurieux. Et qu'est-ce que ça donne comme jet?
Ça donne 2!
Oh!
Ah, mon Dieu!
Une réussite critique. Tu vois le doute sur le visage de Brahim.
Je pense que je vois presque, à un moment, il est en tellement grosse réflexion, et c'est pas du genre à avoir cette habitude-là, que je pense qu'on entend comme une sorte de mouche voler un petit peu au-dessus de sa tête, au moment où il est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Peut-être qu'il a raison.
Soudain, vous êtes les deux, toi et ton ami, plongés dans les ombres, alors que deux hommes de forte taille, sculptés pour le combat, arrivent de chaque côté de Brahim. Et là, tu vois Brahim les consulter. Il est vraiment pas certain.
Si je me permets, du coup, le temps qu'ils sont en train de discuter, je vais me tourner vers Mahmoud, et puis je vais lui faire un signe un peu avec la main en mode à l'horizontale devant le cou, en mode c'est mort mec, un signe qui comprend très bien, ça m'est déjà arrivé plein de fois dans la situation, et là j'y donne en fait l'ordre de dire là on est mal barré, profitons-en, on se casse quoi.
C'est une drôle de réaction que tu, on va mettre ça sur le dos de ta jeunesse, parce que tu as en face de toi des loups, des chiens. Et que fait un chien et un loup lorsqu'il voit une proie courir ou s'esquiver? C'est de courir après. Alors que vous reprenez les portes par lesquelles vous êtes rentrés, les deux malabars vous suivent. Ils n'ont même pas terminé leur conversation avec Brahim. Sans doute qu'il avait convenu déjà que si il vous croisait, qu'on vous passait à tabac et peut-être même vous fourrer dans un sac pour vous... pour vous amener auprès de... Oui, c'est... vous mettre dans un sac, mais là, tu vas encore mal penser, Angie. Vous mettre dans un sac et vous amener à des gens aux goûts spéciaux. Alors, les deux malabars partent, ouvrent les portes en fracas. Qu'est-ce que vous faites?
Là, à ce moment-là, vu qu'il est derrière moi... que j'y ai fait signe, je pense que c'est lui qui prend le pas sur moi. Et puis je vais être plutôt en train de le suivre pour courir. Je vais être un peu dépendant de lui suivant la direction qu'il veut prendre, quoi. Je vais juste lui crier « Mahmoud, cours plus vite, plus vite !»
Ok, ton idée, c'est de semer les deux sbires de Brahim, c'est ça?
C'est d'essayer de les semer dans la ville, ouais.
Si tu cours pour les distancer, les perdre, mais ça va être un jet d'initiative rapidité sous agilité.
Si tu décides de faire du parcours en sautant des murs, en sautant de péniche en péniche, mais ça va être se mouvoir, esquiver, également sous agilité. Ou tu peux te servir de ta tête, de tes connaissances des lieux, car tu as survie en ville. Et ça, c'est sous mental. Quelle va être ta décision? Et attention, si je me souviens de ta fiche, c'est en survie de ville que tu es le meilleur. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure compétence à prendre dans les trois. Parce que, je vous le rappelle, vous faites votre jet contre la compétence de vos poursuivants. Donc, si tes poursuivants connaissent très, très bien le quartier, ça se pourrait que même si c'est ta compétence la plus élevée en niveau d'action, que ce ne soit pas la bonne à prendre. Que vas-tu faire?
Vu que je suis dans une situation où là je suis plutôt Mahmoud, moi de mon côté je serais plutôt en train juste d'essayer de mouvoir et d'esquiver comme lui, parce que j'imagine que en cette période là il y a quand même pas mal de monde dans les rues, ça va être un peu esquiver les gens, essayer de bousculer pour passer le plus vite possible.
Effectivement, on est en début de soirée, donc ça bouge quand même encore dans les rues, quoique le soleil ait disparu. Les gens se sentent encore en sécurité. Mais dis-moi, si vous faites deux choses différentes, toi se mouvoir et esquiver, et Mahmoud commencer à courir, est-ce que vous vous séparez? Ça pourrait être une tactique aussi pour semer vos hommes, ou vous restez ensemble? Êtes-vous des deux amis solidaires?
On ne se sépare jamais.
Très bien.
C'est la première règle de survie. Je sais pas, dans ce sens-là, est-ce que si on court pour essayer de trouver une échappatoire, est-ce que ça serait plutôt survie en ville alors? C'est ça?
Ben, si tu te sers de ta tête, si tu te sers de qu'est-ce que tu connais du quartier, c'est survie en ville.
Ok, donc on va plutôt lancer ça pour trouver une échappatoire.
Très bien. Écoute, tu vas me faire ton jet à 40%. C'était la pire décision que tu pouvais prendre.
Ouais, je sais.
Parce que les loupards, toi, tu viens pas de ce quartier-là, mais tu le connais. Mais les deux sbires qui te poursuivent, eux, viennent de ce quartier.
Cours comme si ta virginité en dépendait.
Et, je crois que c'est le cas.
C'est le cas!
T'as pas besoin de beaucoup d'imagination, c'est vraiment le cas.
<rire> 72. J'aurais préféré mettre faire le 2 maintenant, en fait. Hein.
Écoute, c'est la plus haute tranche dans un jet qui n'est pas réussi. C'est que la fiction te frappe fortement. Tu peux...
Ah, il n'y a pas de fiction, il y avait deux mal à barre.
tout le monde va te frapper.
Ah bon, bah, tout le monde va me frapper.
Mais Kenan, écoute-moi. Tu peux relancer le jet en prenant un état émotionnel qui correspond à la situation.
Pardon.
À tes soins, Andréa. Écoute, ça peut être de la panique. Est-ce que tu prends un état émotionnel? Est-ce que tu veux garder ce jet où la fiction va te rentrer fortement dedans ou tu relances le jet? Tu entends ces deux hommes qui te dépassent d'une tête japper derrière toi... Et te faire miroiter tout ce qui t'attend pour le reste de la nuit.
Ouais, je pense que ça serait justifié d'être paniqué face à cette situation-là.
Très bien. On coche un état émotionnel qui est paniqué et on l'utilise immédiatement en relançant ce 40%. Oh, c'est réussite. Écoute, tu connais quand même ce secteur. Comment tu penses que tu aurais pu vraiment prendre de la distance par rapport à ces deux hommes?
J'imagine un peu genre une ruelle où je serais déjà passé, une petite ruelle étroite où c'est tellement le taudis que tu aurais des morceaux un peu partout, par terre, un peu de charrette, de n'importe quoi qui fait que c'est impraticable, sauf en arrivant à sauter ou enjamber ça.
Ils vous perdent de vue. Que faites-vous alors que vous êtes dans cette ruelle-là, mais tu sais que s'ils commencent à scruter, chercher consciencieusement, ils vont finir par vous trouver.
Et là, je pense qu'on reprend notre souffle un petit peu. Là, j'essaye de regarder voir où ils en sont, s'ils sont encore derrière nous ou par là. J'essaye un peu d'analyser le coin, voir est-ce que ça vaut le coup de partir là en ce moment. Ou...
Tu vois les yeux de Mahmoud s'écarquiller alors que les deux silhouettes apparaissent à l'embouchure de la Venelle. Ils avancent vers vous. Tu vois Mahmoud zioter une porte de bois. On s'élance? Écoute, il faut faire quelque chose, Kenan. Ils vont nous tomber dessus.
Ouais, vas-y. Avance, je te suis.
Et là, il va prudemment, parce que les hommes sont à portée d'entendre. Donc, il ouvre tranquillement cette porte de bois et se glisse dans la noirceur. Tu le suis?
Je le suis.
Il prend la peine de refermer la porte derrière vous. Aussitôt, tu vois, vous êtes dans une pièce sombre et tu entends le fracas de chaudron, de vaisselle, comme si tu étais proche d'une grande cuisine où il y a beaucoup d'activité. Et derrière, en fond, un genre de brouhaha, comme une foule.
Là, pour l'instant, on voit correctement dans la pièce?
Oui, c'est assez clair pour voir. Et vous voyez une porte, et là, vous voyez un paquet de gens qui s'affairent à préparer des plats. Je te dirais au moins une quinzaine de personnes, hommes, femmes, qui courent à gauche et à droite dans une immense cuisine.
Je me retourne pour voir où en est Mahmoud, et je pense que je presse le pas pour le rejoindre et le pousser en avant pour lui montrer que non, faut y aller là.
Lorsque tu pousses Mahmoud, vous débouchez dans une grande salle, bondée de gens. C'était de là que venait la rumeur. C'est une foule qui crie dans une grande salle en forme de cercle. Et ils scandent « Sa régine s'étane! Sa résine s'étane! Sa résine s'étane! » Tous en chœur. Ce qui veut dire « démon blond ». Fendant la foule, tu vois un homme large d'épaules et de cou. Et impossible de le manquer. Il dépasse d'une tête tous les gens qu'il tasse sans ménagement pour se rendre au centre de la grande salle où se trouve une arène. À son apparence, tu évalues qu'il s'agit sans doute d'un soldat du Dominion qui n'est pas retourné dans son pays il y a 4 ans. Ça arrive que des guerriers envahisseurs s'éprennent d'une femme pendant une campagne militaire et désertent ainsi leur patrie. Au début, quoique l'homme n'a pas les cheveux si clairs, t'aurais pu croire qu'il s'agissait de lui, le démon blond. Mais tu comprends rapidement que l'homme semble agacé par ce nom que la foule scande. Et arrivé dans le creux de cette arène de sable, entourée de hautes palissades en bois, telle une fosse, l'homme s'enrage de plus belle. Je vais montrer un peu à quoi ressemble la reine. Et on voit l'homme ici. C'est une montagne de muscles.
Taisez-vous, bande d'enfoirés! Je vais l'écraser, votre catin, moi! Caton n'a jamais perdu un combat et ce ne sera surtout pas devant une bonne femme!
Que fais-tu, Kenan? Alors que tu es... là, tu es tassé, les épaules collées... t'es collé à Mahmoud et vous vous déplacez malgré vous avec cette vague de la foule qui est dense autour des palissades de bois.
J'ai pas vu l'arène en fait, c'est assez grand, il y a beaucoup de spectateurs autour.
Écoute, moi j'évaluerais quasiment c'est tout près de 200-250 personnes.
Ok, tout le monde est debout pour l'instant en train de scander les deux combattants, c'est ça?
Oui, à crier « Démon blanc, démon blanc ».
À ce moment-là, je vois Mahmoud qui est encore un peu sous le choc, à pas trop savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et puis, je commence à le presser et presque à le tirer pour l'amener. On essaye de se faufiler au milieu de la foule en essayant de se faire passer comme eux, là, en criant, on essaye d'avancer, tu sais, avec le bras levé, en train de faire pareil qu'eux, quoi. On va continuer à aller presque à l'opposé de l'arène pour... je pense pas qu'il y ait assez de place vraiment, ou qu'ils vont vraiment... On essaye de se perdre vraiment dans la foule, là. On n'a pas trop le choix pour l'instant. On va essayer de se faire tout discret. Je pense, je nous imagine bien là, quand on part comme ça, on est quand même deux personnes un petit peu riches. Donc je nous imagine bien avec un peu une sorte de petite cape ou des habits pas forcément très très bling bling, justement pour essayer de se faire passer au milieu des quartiers un peu plus pauvres. Donc on va essayer de profiter de ça, voir de nos habits un peu pour se cacher au milieu des gens, d'essayer de passer inaperçu. Là.
Pour l'instant, ça va très bien. Les bras sont levés, la foule est en liesse, elle hurle. Mais tout d'un coup, le silence. Les voix commencent à se taire. Les gens arrêtent de crier. Et elle entre. Kenan, tu dois te mettre un peu sur la pointe des pieds pour mieux la voir. Mince, mais les muscles tendus. 1m69, un peu moins de 5 pieds 7, 63 kilos, 140 livres. Mais ce qui te frappe, Kenan, c'est son regard, en fait son œil unique. La détermination que tu y lis est celle d'une armée qui charge. Ygritte, comment te sens-tu alors que tu progresses vers cette arène de combat?
Je me sens très bien, surtout que je vois un adversaire qui semble à ma hauteur. Où est-ce que je vais avoir beaucoup de plaisir à déferler ma colère?
Donc, ce qu'on voit, c'est une Ygritte qui est en contrôle?
Oui.
Comment va ton cœur? Est-ce qu'il bat vite, loin de ta patrie?
Il bat vite d'un mélange d'excitation puis d'enivrement, de combattre, puis un peu en arrière de tout ça, de frustration d'avoir été envoyé à cet endroit-là, mais je fais mon possible.
Parce que ce n'est pas le hasard qui fait que tu es ici. Tu es sur les traces d'un frère de l'ordre de la rondache. Tu tentes de le retrouver.
Oui, tout à fait. C'est ce que Shaitan m'a dit de faire, étant donné que ça se passait mal avec le clan.
Shaitan.
Je dois retrouver mon honneur, ouais, Shaitan.
Ton père adoptif.
Oui, je dois retrouver mon honneur.
Effectivement, alors que tu avances, Ygritte, à travers les gens qui ont un respect pour toi. Alors qu'on a vu Caton qui a dû franchir la foule en les poussant, toi, la foule s'écarte. Depuis 3 semaines, tu es l'attraction de ces combats clandestins. Le roi Abide le Bon, le défunt roi, celui que Solomon a tué il y a 4 ans sur les plages, avait aboli l'esclavage et les combats de gladiateurs, il y a de ça 15 ans. Et qui parle d'abolition parle aussi d'attraction. Donc, il y a maintenant des combats clandestins. Et depuis 3 semaines, c'est ta façon de gagner ta vie en ce lieu que tu connais pas du tout. Tes recherches t'ont amené jusqu'à Nippur pour retrouver ce Solomon. Et alors que tu avances, que les gens se tassent, respectueux de toi, parce que Les femmes mésoènes ont un rôle très traditionnel. Donc, une femme qui se bat, écoute, les mésoènes ont jamais vu ça. Et de la façon que tu te bats. Et alors que tu avances vers la...
Je leur donne pour leur argent.
Oh que oui. Oh oui. La façon, écoute, même pour les gens de ton peuple, les Guanacs, qui sont très farouches, très, qui se battent d'une façon bestiale, tu étais une plaie pour eux. Et alors que tu avances vers cette arène-là, on entend la voix de ton père adoptif. Tu as salement blessé Manny, notre meilleur pisteur, ma fille. Alors que vous vous entraîniez, Nathan, la semaine dernière, puis tu t'es emporté contre Nuna. Tu dois contenir ta rage, Ygritte. Je bénis tous les jours le grand esprit du faucon de t'avoir trouvé. Et fais en sorte que tu deviennes ma fille. Mais je ne peux plus te couvrir. Tu avais déjà cette colère en toi lorsque je t'ai trouvé à l'âge de 10 ans. Mais les choses ont pris des proportions alarmantes depuis que tu as enfreint le code de dette de vie.
à tes 14 ans. Depuis que tu t'es attaqué à cette foutue patrouille de frères de la rondache, plus rien ne va. J'aurais dû forcer ce Solomon à te prendre avec lui pour que tu paies ta dette de vie à son endroit. Mais j'étais beaucoup trop heureux de te voir en vie pour peser toutes les conséquences des décisions à l'époque. Notre peuple verra toujours en toi une femme sans honneur, quoi que tu fasses, tant que tu n'auras pas payé ta dette de vie envers ce moine.
Solomon, dis-moi, je crois que t'es peut-être le mieux à même de nous expliquer ta rencontre avec Ygritte un an avant la conquête de la côte de Mézo, alors que toi, tu avais, 18 ans et Ygritte 14 ans.
Oui, j'ai été avec mes frères. On était en mission quand on a traversé les terres des Guanac et on était à cheval quand une jeune furie nous est tombée dessus. Clairement dans le but de nous tuer. Elle était vraiment pas vieille, là, d'avoir 12 ou 13 ans. Et puis, on l'a maîtrisée facilement quand même. On l'a attachée et on a tenté de la nourrir, mais elle était tellement sauvage que ses dents pis ses ongles, c'était ses armes, et puis désirait carrément nous arracher la peau. Et suite à quoi j'ai rencontré son père adoptif, Shaitan, qui m'a informé que elle avait une dette de vie envers moi. Et puis j'ai répondu à Shaitan, si sa vie m'appartient, eh bien je te la rends.
Ce qui a fait plaisir à Shaitan sur le coup. Mais on comprend que de cette façon-là, Ygritte s'est comme esquivée d'un code d'honneur Guanac qui s'est esquivée de cette dette de vie. Elle aurait dû rester avec toi jusqu'à temps de te sauver en retour. On entend encore la voix de Shaitan alors que tu avances, alors que tu mets les pieds sur le sable, Ygritte. La voix de ton père adoptif résonne encore dans ta mémoire. « Cela me fait du mal de le dire, mais je suis d'accord avec notre chef, Abeka et les anciens. Il faut que tu règles cette tâche de ton passé pour recouvrer ton équilibre. Menidak, de la tribu des Ours Rouges, m'a dit que ce Solomon est devenu un grand guerrier chez les siens et qu'il a traversé la mer pour gagner d'autres terres encore. Il n'en est jamais revenu. Trouve-le, ou trouve sa tombe s'il le faut. » Et honore ta dette de vie envers lui. S'il est mort, alors ta dette sera considérée comme payée. S'il est vivant, alors suis-le et sauve-le en retour. Et reviens-nous, ma fille.
Ygritte, tu as les deux pieds dans le sable de l'arène et tu es devant ce colosse qui te dépasse de deux têtes. C'est une bête. Et dans l'instant, nous allons entendre la cloche qui va annoncer le début du combat.